Chapitre 23. Contenson. Le célèbre banquier prenait du thé, grignotait quelques tartines de beurre, en homme dont les dents n'étaient plus aiguisées par l'appétit depuis longtemps, quand il entendit une voiture arrêtant à la petite porte de son jardin. Bientôt, le secrétaire de Nucingen lui présenta Contenson, qu'il n'avait pu trouver que dans un café près de Sainte-Pélagie, où l'agent déjeunait du pourboire donné par un débiteur incarcéré avec certains égards qui se paient. Contenson, voyez-vous, était tout un poème parisien. À son aspect, vous eussiez deviné de prime abord que le Figaro de Beaumarchais, le Mascarillé de Molière, les Frontins de Marivaux et les Lafleur de Dancourt, ces grandes expressions de l'audace dans la friponnerie, de la ruse aux abois, du stratagème renaissant de ses ficelles coupées, sont quelque chose de médiocre en comparaison de ce colosse d'esprit et de misère. Quand à Paris vous rencontrez un type, ce n'est plus un homme, c'est un spectacle. Ce n'est plus un moment de la vie, mais une existence, plusieurs existences. Cuisez trois fois dans un four un buste de plâtre, vous obtenez une espèce d'apparence bâtarde de bronze florentin. Eh bien, les éclairs de malheurs innombrables, les nécessités de positions terribles avaient bronzé la tête de Contenson, comme si la sueur d'un four eût, par trois fois, déteint sur son visage. Les rides, très pressées, ne pouvaient plus se déplisser. Elles formaient des plis éternels, blancs au fond. Cette figure jaune était tout ride. Le crâne, semblable à celui de Voltaire, avait l'insensibilité d'une tête de mort, et sans quelques cheveux à l'arrière, on eût douté qu'il fût celui d'un homme vivant. Sous un front immobile s'agitaient, sans rien exprimer, des yeux de chinois exposés sous verre à la porte d'un magasin de thé, des yeux factices qui jouent la vie et dont l'expression ne change jamais. Le nez, camus comme celui de la mort, narguait le destin, et la bouche, serrée comme celle d'un avare, était toujours ouverte et néanmoins discrète comme le rictus d'une boîte à lettres. Calme comme un sauvage, les mains hâlées, Contenson, petit homme sec et maigre, avait cette attitude diogénique, pleine d'insouciance, qui ne peut jamais se plier aux formes du respect. Et quel commentaire de sa vie et de ses mœurs n'était pas écrit dans son costume, pour ceux qui savent déchiffrer un costume? Quel pantalon surtout! Un pantalon de record, noir et luisant, comme l'étoffe dite voile, avec laquelle on fait les robes d'avocat. Un gilet acheté au temple, mais à châle et brodé. Un habit d'un noir rouge. Et tout cela brossé, quasi propre, orné d'une montre, attachée par une chaîne en chrysocale. Contenson laissait voir une chemise de percale jaune, plissée, sur laquelle brillait un faux diamant en épingle. Le col de velours ressemblait à un carcan, sur lequel débordaient les plis rouges d'une chair de Caraïbe. Le chapeau de soie était luisant comme du satin, mais la coiffe fut rendue de quoi faire deux lampions si quelque épicier l'eût acheté pour le faire bouillir. Ce n'est rien que d'énumérer ces accessoires, il faudrait pouvoir peindre l'excessive prétention que Contenson savait leur imprimer. Il y avait je ne sais quoi de coquet dans le col de l'habit, dans le cirage tout frais des bottes à semelles entrebâillées, qu'aucune expression française ne peut rendre. Enfin, pour faire entrevoir ce mélange de tons si divers, un homme d'esprit aurait compris, à l'aspect de Contenson, que si, au lieu d'être mouchard, il eût été voleur, toutes ses guenilles, au lieu d'attirer le sourire sur les lèvres, eussent fait frissonner d'horreur. Sur le costume, un observateur se fût dit « Voilà un homme infâme, il boit, il joue, il a des vices, mais il ne se saoule pas, mais il ne triche pas, ce n'est ni un voleur ni un assassin. » Et Contenson était vraiment indéfinissable, jusqu'à ce que le mot « espion » fût venu dans la pensée. Cet homme avait fait autant de métiers inconnus qu'il y en a de connus. Le fin sourire de ses lèvres pâles, le clignement de ses yeux verdâtres, la petite grimace de son nez camus disaient qu'il ne manquait pas d'esprit. Il avait un visage de fer blanc et l'âme devait être comme le visage. Aussi ses mouvements de physionomie étaient-ils des grimaces arrachées par la politesse plutôt que l'expression de ses mouvements intérieurs. Il eût effrayé s'il n'eût pas fait tant rire. Contenson, un des plurieux produits de l'écume qui surnage au bouillonnement de la cuve parisienne, où tout est en fermentation, se piquait surtout d'être philosophe. Il disait sans amertume « J'ai de grands talents, mais on les a pour rien. C'est comme si j'étais un crétin. » Et il se condamnait au lieu d'accuser les hommes. Trouver beaucoup d'espions qui n'aient pas plus de fiel que n'en avait Contenson. Les circonstances sont contre nous, répétait-il à ses chefs. Nous pouvions être du cristal, nous restons grains de sable, voilà tout. Son cynisme en fait de costume avait un sens. Il tenait aussi peu à son habillement de ville que les acteurs tiennent au leur. Il excellait à se déguiser, à se grimer. Il eût donné des leçons à Frédéric Lemaître, car il pouvait se faire dandy quand il le fallait. Il manifestait une profonde antipathie pour la police judiciaire, car il avait appartenu sous l'Empire à la police de Fouché, qu'il regardait comme un grand homme. Depuis la suppression du ministère de la police, il avait pris pour pis-aller la partie des arrestations commerciales. Mais ses capacités connues, sa finesse, en faisaient un instrument précieux, et les chefs inconnus de la police politique avaient maintenu son nom sur leur liste. Contenson, de même que ses camarades, n'était qu'un des comparses du drame dont les premiers rôles appartenaient à leur chef quand il s'agissait d'un travail politique. « Allez, fissant !» dit Nucingen en renvoyant ce secrétaire par un geste. « Pourquoi cet homme est-il dans un hôtel et moi dans un garni ?» se disait Contenson. « Il a trois fois roué ses créanciers, il a volé, moi je n'ai jamais pris un denier. J'ai plus de talent qu'il n'en a. » « Gondenson, mon bédi, dit le baron, fut ma fesse carottée, en pilée de 1000 francs. Ma maîtresse devait à Dieu et au diable. »« T'y as une maîtresse ?» s'écria Nucingen en regardant Contenson avec une admiration mêlée d'envie. « Je n'ai que 66 ans, répondit Contenson, en homme que le vice avait maintenu jeune comme un fatal exemple. « Et que veut-elle ?» « Elle m'aide, dit Contenson, quand on est voleur et qu'on est aimé par une honnête femme, ou elle devient voleuse, ou l'on devient honnête homme. Moi, je suis resté mouchard. »« T'y as peu soin d'argent, tu jures ?» demanda Nucingen. « Toujours, répondit Contenson en souriant, c'est mon état d'en désirer, comme le vôtre est d'en gagner. Nous pouvons nous entendre. Ramassez-moi, je me charge de le dépenser. Vous serez le puits et moi le seau. » « Feux-tu cagner un pilet de 500 francs ?»« Belle question, mais suis-je bête? Vous ne me l'offrez pas pour réparer l'injustice de la fortune à mon égard. »« Dis-tu, chez le joint au pilet des 1000 que tu m'as gibé. Savez 1500 francs que j'étais tonne. »« Bien, vous me donnez les 1000 francs que j'ai pris et vous ajoutez 500 francs. »« C'est de pièce, ça !» fit Nucingen en hochant la tête. « Ça ne fait toujours que 500 francs, dit imperturbablement Contenson. « À tonner ?» répondit le baron. « À prendre. Eh bien, contre quelle valeur monsieur le baron échange-t-il cela ?»« On m'a dit qu'il y a fait à Paris un homme capable de t'écouffrir la femme que j'aime et que tu sais son adresse. En vain, elle m'aide en espionnage. »« C'est vrai. Eh bien ?» Donne-moi la tresse et t'y as les 500 francs. Où sont-ils ? Répondit vivement Contenson. Les voici, reprit le baron en tirant un billet de sa poche. Eh bien, donnez, dit Contenson en tendant la main. Tonnant, tonnant, allons foire l'homme et t'y as l'argent, car t'y bourrais me fendre beaucoup d'attresse à ce prix-là. Contenson se mit à rire. « Au fait, vous avez le droit de penser cela de moi, » dit-il en ayant l'air de se gourmander. « Plus notre état est canaille, plus il y faut de probité. Mais voyez-vous, monsieur le baron, mettez 600 francs et je vous donnerai un bon conseil. Tonne et vis-toi à ma générosité. »« Je me risque, » dit Contenson, « mais je joue gros jeu. En police, voyez-vous, il faut aller sous terre. Vous dites, allons, marchons. » Vous êtes riche, vous croyez que tout cède à l'argent. L'argent est bien quelque chose, mais avec de l'argent, selon les deux ou trois hommes forts de notre parti, on n'a que des hommes. Et il existe des choses auxquelles on ne pense point, qui ne peuvent pas s'acheter. On ne soudoie pas le hasard. Aussi, en bonne police, ça ne se fait-il pas ainsi. Voulez-vous vous montrer avec moi en voiture? On sera rencontrés. On a le hasard tout aussi bien pour soi que contre soi. Frais ? Dit le baron. Dame, oui, monsieur, c'est un fer à cheval ramassé dans la rue qui a mené le préfet de police à la découverte de la machine infernale. Eh bien, quand nous irions ce soir, à la nuit, en fiacre, chez monsieur de Saint-Germain, il ne se soucierait pas plus de vous voir entrant chez lui que vous d'être vu y allant. C'est juste, dit le baron. Ah, c'est le fort des forts, le second du fameux Corentin, le bras droit de Fouché, que d'aucuns disent son fils naturel, il l'aurait eu étant prêtre. Mais c'est des bêtises. Fouché savait être prêtre comme il a su être ministre. Eh bien, vous ne ferez pas travailler cet homme-là, voyez-vous, à moins de 10 billets de 1 000 francs. Pensez-y. Mais votre affaire sera faite et bien faite, ni vue ni connue, comme on dit. Je devrais prévenir M. de Saint-Germain et il vous assignera quelque rendez-vous dans un endroit où personne ne pourra rien voir ni rien entendre, car il court des dangers à faire de la police pour le compte des particuliers. Mais que voulez-vous? C'est un brave homme, le roi des hommes, et un homme qui a essuyé de grandes persécutions et pour avoir sauvé la France encore. Eh bien, dit Maigrira, lire du perché. Dit le baron en souriant de cette vulgaire plaisanterie. Monsieur le baron ne me graisse pas la patte, dit Contenson avec son air à la fois humble et menaçant. Jean, cria le baron à son jardinier, faites demander 5 francs à Chorches et abordez-les-moi. Si monsieur le baron n'a pas d'autres renseignements que ceux qu'il m'a donnés, je doute cependant que le maître puisse lui être utile. J'en ai d'autres. Répondit le baron d'un air fin. J'ai l'honneur de saluer monsieur le baron, dit Contenson en prenant la pièce de 20 francs. J'aurai l'honneur de venir dire à Georges où monsieur devra se trouver ce soir, car il ne faut jamais rien écrire en bonne police. C'est de drôle, comme ces caillards ont de l'esprit, se dit le baron. C'est dans Bolise, nous comme dans les Avers.